Vous avez dit insectologue ?
Alors, on dit entomologiste, ce qui déjà est une première barrière, puisque beaucoup de gens se disent entomologiste, ok, qu'est-ce que c'est que ça ?
David Giron, directeur de l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, IRBI, directeur de recherche CNRS.
Alors, ça éveille surtout la curiosité en disant mais pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il y a à découvrir ? Un insecte, c'est caractérisé par un organisme qui va avoir un corps segmenté et six pattes. Donc, à partir du moment où vous avez ces caractéristiques fondamentales, vous allez pouvoir avoir un insecte. Et ensuite, bien sûr, il y a toute une diversité qui va se développer. Mais tous les insectes ont ça en commun comme caractéristique. Et si vous avez huit pattes, vous êtes malheureusement plus chez les insectes, vous êtes chez les arachnides, par exemple. Et donc, c'est souvent la confusion qui est faite hein, entre les araignées et les insectes. On met tous dans un même panier. À partir du moment où vous avez plus de six pattes, vous n'êtes pas un insecte. On associe à insectes toutes les bestioles, si possible, toutes les bestioles désagréables. Donc, on va pouvoir y retrouver, par exemple, des mille-pattes ou des organismes comme ça, ou des cloportes, par exemple. On va dire que c'est des insectes, alors que pour certains, c'est des crustacés terrestres. Oui, on va retrouver en gros toutes les petites bestioles un peu désagréables qu'on va le mettre dans le groupe des insectes. Les insectes, ils remplissent plein de fonctions hein, dans les écosystèmes. Alors, bien sûr, le plus emblématique, c'est très certainement les pollinisateurs et donc notamment au premier lieu les abeilles domestiques. Mais en fait, les insectes, ils remplissent tout un tas de services écosystémiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent agir dans la dégradation de la matière organique, dans le recyclage de la matière organique, ils peuvent agir dans l'élimination d'un certain nombre de ravageurs, de cultures. Donc ça, c'est pour les insectes auxiliaires, par exemple. Mais bien évidemment, il y a aussi tout un tas d'insectes qui sont plutôt nuisibles. Alors, quand on dit nuisibles, souvent, c'est nuisible pour l'homme parce qu'ils vont manger les cultures, parce qu'ils vont piquer et éventuellement transmettre des maladies. Mais ils ont des fonctions bien réelles dans l'écosystème. Par exemple, les larves de moustiques sont la base de la nourriture pour un certain nombre de poissons ou de libellules. Et ces moustiques, pour un certain nombre, ils participent aussi à la pollinisation. Donc, si on regarde par le prisme uniquement humain, on se dit, mais pourquoi conserver certains de ces insectes qui servent à rien, en gros, ou qui sont vraiment embêtants pour les populations humaines. Mais dans les écosystèmes, ils ont toutes les espèces ont une fonction qui leur sont propres.
IRBI, unité mixte de recherche, 7261, CNRS, Université de Tours, Faculté de sciences et techniques, Parc de Grandmont, avenue Monge, 37200, Tours, France.
Alors l'IRBI, c'est l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte et comme son nom l'indique, c'est donc un laboratoire qui travaille sur différents aspects en lien avec les insectes et plus particulièrement les relations entre les insectes et leur environnement. Alors une des particularités de l'IRBI, c'est dans le paysage scientifique, c'est d'avoir une approche qui est vraiment centrée sur les organismes. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'intéresser à l'insecte en tant qu'organisme et ensuite on va pouvoir décliner des études sur différents niveaux d'études. Donc ça peut être au niveau des génomes par exemple, au niveau de la physiologie, ou ça peut être au niveau des populations, voire des communautés. Mais le point d'ancrage principal, c'est la biologie de l'organisme. Et bien, c'est de comprendre en fait vraiment ce qui est au cœur de l'écologie, c'est-à-dire comment un organisme va faire face aux contraintes de l'environnement, comment il va réagir face à ces modifications de l'environnement, que ce soit des modifications naturelles ou des modifications qui soient causées par l'homme. Et on parle beaucoup en ce moment des changements globaux et de ces différents effets sur la biodiversité. Et donc, comprendre un petit peu comment les organismes vont s'adapter au cours de l'évolution, s'adapter au cours des perturbations qui sont sur des échelles beaucoup plus courtes, et quels vont être les impacts sur sa physiologie, sur son comportement et plus globalement sur son rôle dans les écosystèmes. Et donc comment ces perturbations vont impacter le fonctionnement des écosystèmes dans lesquels les insectes jouent un rôle prépondérant. Alors l'équipe, comme dans beaucoup de laboratoires, elle est déjà faite de gens qui ont des fonctions très différentes. Hein. Donc bien évidemment, c'est toute une petite communauté, société qui vit. Donc, effectivement, on a à la fois des gens qui s'occupent de l'atelier, de nettoyer les surfaces, etc. Et puis, toute la partie aussi administrative, gestion. Et après, sur la partie purement expérimentale, on a tous les corps de métier, depuis des techniciens, des assistants ingénieurs, des ingénieurs d'études ou de recherche, et puis des chercheurs ou des enseignants-chercheurs. La différence étant que les chercheurs ont dans leur mission uniquement, on va dire en quelque sorte, donc faire de la recherche. Ils sont employés par les grands organismes de recherche. Donc, nous, on est associés au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS. Et les enseignants-chercheurs, eux, qui sont de l'université, vont à la fois donner des enseignements et donner et faire de la recherche. Donc, ça, c'est pour les corps de métier. Ensuite, pour les disciplines, l'IRBI est, depuis sa création, très interdisciplinaire. Donc, on a aussi bien des biologistes que des mathématiciens qui vont, par exemple, faire des modélisations. Donc des physiciens qui vont s'intéresser à tous les phénomènes physiques autour des insectes, par exemple comment les insectes vont pouvoir voler ou se déplacer. Et puis on a bien évidemment des biologistes et on a également des chimistes par exemple ou des informaticiens. Donc voilà, plusieurs champs disciplinaires autour de ces questions de biologie de l'insecte. Alors en fait, il y a deux grandes catégories un petit peu de chercheurs qui travaillent sur les insectes. Il y a ceux qui sont tomber dedans des tout petits comme Obélix, qui déjà tout petit était fasciné par les insectes, avait des collections d'insectes chez eux, attrapait les papillons, etc. Et des gens comme ça ont souvent une fibre plutôt qu'on appelle naturaliste. Ils s'intéressent en premier lieu aux modèles et ensuite ils vont souvent décliner des questions scientifiques autour de ces modèles-là. Et puis, il y a ceux qui ont suivi un cursus scientifique parce que intéressé notamment par les questions de biologie, ce qui est mon cas. Et puis, en fait, des fois, le hasard un peu de la vie fait que vous êtes amené à aller vers les insectes, soit parce que c'est souvent un bon modèle biologique pour répondre à la question qui vous intéresse, même si, bien sûr, vous pouvez faire des parallèles avec d'autres organismes. Et puis, des effets aussi de circonstances. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été intéressé par la biologie, et donc j'ai commencé mes études à l'université de Tours. Et il s'avère que dans le cadre des TP de biologie animale, se développait un certain nombre d'activités autour des insectes parce qu'il y a donc l'IRBI, un laboratoire très important sur les insectes sur Tours. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai mis le pied dans le monde des insectes. À travers le monde, il y a différents pôles qui s'intéressent aux insectes, mais l'IRBI reste unique par la concentration d'autant de chercheurs qui travaillent sur le modèle insecte en un même lieu. Donc c'est le plus grand centre européen qui travaille sur les insectes et qui rivalise avec les grands centres mondiaux qui travaillent sur les insectes. Donc on a vraiment une place internationale reconnue de par les études que l'on mène hein, à travers des modèles que l'on peut trouver dans les différentes zones du globe, de par les collaborations. Nous collaborons avec des équipes de recherche sur tous les continents. Et puis, de par aussi la diversité des nationalités au sein même de l'IRBI, puisque nous avons des personnes d'origine suisse, des personnes d'origine d'Argentine, par exemple. Nous avons des personnes d'Afrique du Sud actuellement, du Kenya, donc d'Espagne. Enfin, nous avons vraiment des collaborateurs, que ce soit des étudiants, des doctorants ou des chercheurs qui sont d'origine multiple. y a des espèces que l'on maintient en élevage toute l'année, certaines depuis des années et des années. Donc on élève plus de 25 espèces d'insectes en permanence grâce à des dispositifs qui sont vraiment spécialisés pour recréer des environnements spécifiques, soit un environnement tropical, un environnement tempéré. On peut jouer sur la température, l'humidité, la lumière, etc. On a plein d'espèces, de multiples espèces de guêpes, alors qui ont toutes des petits noms latins, Cotesia congregata, Pelmus vuleti, par exemple. On a Dinarmus basalis, on a aussi des coléoptères, donc des scarabées. Un modèle historique, c'est Calosobrucus maculatus. Voilà, je pourrais développer à loisir toutes les espèces que nous avons, mais nous avons... principalement différentes espèces de guêpes, nous avons des fourmis, nous avons des moustiques, nous avons des punaises, nous avons des termites, des perce-oreilles et multiples chenilles et papillons, par exemple. On a aussi des espèces qu'on va aller chercher juste le temps d'une expérimentation, donc c'est des populations souvent qu'on va simplement maintenir au laboratoire plus que élever. Donc ça, on peut aller les collecter dans les environs ou parfois un peu plus loin. Et puis il y a un certain nombre d'études que l'on fait directement dans la nature, c'est-à-dire que on peut vraiment aller étudier les insectes dans leur environnement naturel. Et là encore, aussi bien sur des territoires à proximité ou sur des zones beaucoup plus lointaines, tropicales, à travers n'importe où, à travers le monde. Donc ça, c'est vraiment les populations, enfin les espèces d'insectes sur lesquelles on travaille. Et ensuite, on a, d'un point de vue expérimental, on a tout un tas d'équipements et de gros équipements scientifiques qui vont nous permettre justement de répondre aux questions qui nous intéressent. En fait, on a tout un tas de dispositifs. Alors, c'est beaucoup de l'observation, hein, malgré tout, hein, donc soit de l'observation directe. Maintenant, on a aussi tout un tas de systèmes qui permettent d'enregistrer en simultané de multiples boîtes, par exemple, de pétri, dans lesquelles il va y avoir des insectes. Et ensuite, il y a tout un travail d'analyse d'images. Donc, on ne peut pas vraiment s'affranchir de l'observation, même si c'est dans un temps donné enregistré par une caméra. À un moment donné, il va falloir aussi décortiquer toutes ces images. Donc, ça, c'est aussi bien en laboratoire que dans la nature, il y a beaucoup de travaux qui sont basés effectivement sur l'observation. Il y a des recherches en fait qui sont très fondamentales, où on va vraiment comprendre en fait les origines de mécanismes du vivant. Donc par exemple, on s'intéresse à l'évolution de la socialité. Comment se fait-il qu'au cours de l'évolution, on soit passé pour certaines espèces d'une vie solitaire à une vie en famille ou une vie en colonie même très structurée, comme on a l'exemple chez les fourmis ou chez les abeilles. Donc on développe par exemple des études sur ces organismes qu'on appelle sociaux, donc les fourmis par exemple, ou les termites. On va essayer de comprendre les mécanismes de la socialité, comment ces petites sociétés fonctionnent, quels sont leurs avantages, quels sont leurs inconvénients. Et on peut aussi utiliser des espèces qui ont des stratégies un peu intermédiaires, comme par exemple le perce-oreille, qui a une vie pas vraiment de société, mais qui a une vie de famille. Et donc, quel est le lien entre les parents et les enfants? Pourquoi ils vivent en famille et ils vivent en famille et ils ne vivent pas tout seuls? Quels sont les bénéfices pour les parents? Quels sont les coûts pour les parents? Quels sont les bénéfices pour les descendants? Quels sont les coûts pour les descendants? Donc ça, c'est un exemple très concret de recherche très fondamentale. Et ensuite, on a des questions qui sont plus appliquées. Par exemple, on peut s'intéresser au phénomène justement de locomotion des insectes, comment les insectes vont pouvoir se propulser à la surface de l'eau, comment ils vont pouvoir décoller, quels sont les phénomènes physiques qui se passent autour de ces insectes, donc à la surface de l'eau ou dans l'air, et quelles sont les applications qui peuvent avoir lieu, par exemple, en aéronautique ou pour développer des micro-robots qui vont être envoyés ensuite sur Mars. Donc ça, c'est juste deux exemples qui montrent un petit peu la diversité entre des approches très fondamentales, sans application immédiate, et des recherches qui sont très pointues, mais qui peuvent avoir des débouchés, par exemple, dans l'industrie. C'est tout ce qu'on appelle l'industrie bio-inspirée. Alors, une des méthodes très classiques qui n'a rien de high-tech, hein, c'est de tendre un drap blanc avec un éclairage la nuit, et vous allez attirer un grand nombre d'insectes qui vont être attirés par cette lumière. Donc c'est une méthode que tout un chacun peut mettre en œuvre et qui est utilisé par les naturalistes depuis très longtemps et que nous-mêmes utilisons aussi bien dans nos environnements que, par exemple, lors d'une mission en Amazonie que nous avons pu mener il y a quelques années et que nous sommes amenés à renouveler régulièrement. Donc ça, c'est des choses qui nous permettent d'attirer les insectes, alors avec des lumières UV aussi également. L'utilisation de l'animal à des fins expérimentales. Oui, c'est une problématique en fait qui est très importante dans toute la recherche, hein. Alors, s'il est vrai que pour certains champs de recherche, la question se pose réellement de cet intérêt, aujourd'hui, on peut difficilement s'affranchir totalement de l'étude du vivant pour comprendre le vivant et pour faire avancer la connaissance, au-delà des applications possibles que ça peut avoir pour l'homme. Alors, bien évidemment, bien sûr, l'idée, c'est de comment développer cette étude du vivant tout en respectant les questions d'éthique, de souffrance animale, etc. Alors aujourd'hui, c'est émergent dans le domaine des insectes, puisque si il est bien établi que la souffrance, c'est quelque chose et le bien-être, c'est quelque chose qui est quantifiable, mesurable, hein, chez des gros organismes. Aujourd'hui, on a tout un tas d'incertitudes sur la perception de la souffrance, de la douleur chez les insectes. Il commence à y avoir des études, hein, qui montrent effectivement. Mais après, c'est comment on le mesure pour pouvoir le prendre en compte. Donc ça, c'est vraiment une problématique. Et aujourd'hui, on essaye de se conformer, d'anticiper finalement toutes ces questions et se conformer à une des pratiques les plus respectueuses possible des insectes, et dès que l'on peut s'en passer, et bien se passer de l'expérimentation. Donc, par exemple, à des fins pédagogiques, on est en train, des collègues en train de développer un projet, justement, d'avoir des méthodes non invasives, c'est-à-dire que plutôt que d'aller disséquer votre petit insecte en travaux pratiques, d'avoir des recours à la numérisation et la visualisation 3D pour faire des expérimentations virtuelles, par exemple.
Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps, et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Bzz, 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 bzz. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine, elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Bzz, bzz, bzz. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire, elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Bzz, 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 bzz. Les abeilles.
Installer une ruche sur son toit. Bonne ou mauvaise idée ?
Bonne et mauvaise idée. En fait, la bonne idée, c'est que ça part d'un bon sentiment qui est de contribuer à entretenir une certaine biodiversité, entretenir les ruches et ces pauvres abeilles qui disparaissent. Mauvaise idée dans le sens où le principe même de la ruche, c'est que telle qu'elle est construite par l'homme, c'est pas un système qui s'auto-entretient. Et donc, on a vu plein d'initiatives comme ça, on pose des ruches à droite, à gauche, et puis d'un seul coup, après, ils se retournent vers nous ou vers d'autres, en nous appelant au secours, en disant, mais qu'est-ce qu'on fait, comment ça se gère. Oui, il faut, dans ces systèmes-là, une intervention humaine, ne serait-ce que pour maintenir la bonne fonctionnalité de la ruche. Donc, voilà, bonne et mauvaise idée à la fois. Il faut penser à l'après, il ne faut pas simplement se dire... voilà, j'ai fait mon action favorable, j'ai déposé une ruche, tout va bien. Il y a aussi tout un réseau hein, d'apiculteurs professionnels qui sont mis à contribution. Nous, on est souvent plutôt mis à contribution en disant, bon, on a une ruche, je suis sûr que ça peut être utile pour vous, pour vos questions de recherche, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ça part de nouveau hein, d'un bon sentiment, mais des fois, il faudrait prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire s'asseoir ensemble et se demander, est-ce qu'il y a un intérêt scientifique et si un intérêt, quel type de ruche, à quel endroit on la met, dans quel objectif, etc. Mais il y a plein tas d'initiatives comme ça qui sont dans l'air du temps et qui sont intéressantes. J'ai un autre exemple, en fait, c'est l'histoire des hôtels à insectes. Les hôtels à insectes, c'est très bien, ça, on en trouve dans tous les commerces, alors il y en a des plus ou moins efficaces, hein, mais l'idée c'est de donner des habitats pour les insectes et favoriser ainsi le maintien des insectes. Mais si on met un hôtel à insectes, mais qu'à côté de ça, on n'agit pas sur la gestion des pesticides dans son propre jardin, par exemple, ça n'a pas grand intérêt. Et d'autre part, une étude qui a été menée en Nouvelle-Calédonie montre que dans certains environnements, et c'était le cas en Nouvelle-Calédonie, les hôtels à insectes qui étaient proposés dans le marché, en fait, favorisaient non pas les insectes qui étaient naturellement présents sur site, mais les espèces introduites. Donc, en voulant favoriser les insectes, c'était bien, mais en fait, on ne favorisait pas les bons insectes, puisqu'on favorisait plutôt les espèces invasives qui se développent au détriment des insectes autochtones. C'est un peu l'idée, on a développé avec l'aide de la région Centre Val-de-Loire, ce qu'on appelle un RTR, un réseau thématique de recherche qui s'appelle Entomocentre. Et l'idée, c'est de fédérer tous les acteurs qui travaillent sur les insectes dans la région, donc les associations, éventuellement des industriels, le milieu académique, et de pouvoir avoir comme ça une espèce de pôle de compétences et de ressources pour toutes les questions relatives à l'entomologie, aussi bien pour les citoyens que pour les décideurs politiques.
Et si on vous dit science participative, David Giron ?
Depuis quelques années, une prise de conscience vraiment importante hein, de l'érosion de la biodiversité. Il y a eu un article il y a quelques temps qui a fait un peu le buzz dans les médias sur la disparition massive des insectes. Et donc, les gens sont sensibilisés à ça. Ils sont aussi sensibilisés aux invasions biologiques avec l'arrivée de nouveaux insectes sur les territoires, notamment liés au réchauffement climatique et au flux de matière et de personnes. Donc, par exemple, le moustique-tigre, on en parle beaucoup dans les médias. Donc, il y a malgré tout un intérêt. Et puis, l'intérêt de l'insecte, en fait, c'est que il laisse personne indifférent. Alors, soit ça va répugner les gens, soit ça va fasciner les gens, mais c'est quelque chose qui est très intéressant, notamment pour tout ce qui est la fête de la science, etc., parce que c'est vraiment un objet d'étude qui interpelle les gens. Alors, la science participative, c'est un tournant majeur dans la façon de faire de la science. C'est quelque chose qui est très mise en avant, notamment dans les financements européens, mais aussi à l'échelle française, et qui incite les laboratoires à développer donc des approches participatives. Alors, à la place des sciences participatives, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une démarche de recherche participative. Parce qu'il y a aussi tout un tas de biais. Il ne s'agit pas non seulement simplement de mettre à contribution les citoyens pour collecter un certain nombre de données. Ensuite, se pose la question de comment on gère ces données, comment on vérifie ces données. Et la question de la recherche citoyenne, c'est vraiment une démarche de co-construction et non pas une démarche utilitaire en disant on va utiliser le citoyen pour collecter tout un tas de données. Ça marche bien dès lors qu'il y a une vraie réflexion, pareil, de nouveau, en amont, entre les citoyens et les laboratoires de recherche pour savoir qu'est-ce que l'on veut, quelle méthodologie on veut mettre en œuvre, quel garde-fou on se met aussi, et que chacun nourrisse la réflexion autour de ce projet qui doit être co-construit. Donc, on en est un peu au balbutiement, hein, donc il y a encore beaucoup à faire, il y a encore beaucoup de questions à se poser aussi sur comment on fait de la science citoyenne. Il y a une étude il n'y a pas longtemps qui a montré justement que une étude comme ça avait entraîné beaucoup de faux résultats en quelque sorte, parce qu'en fait les élèves d'une école voulaient tellement bien faire que intuitivement, en fait, ils avaient, enfin, inconsciemment plutôt, ils avaient biaisé en fait les données. Et donc, voilà, faire attention dans ce que l'on fait et quel garde-fou on met pour que ça puisse vraiment servir un besoin de recherche, une question de recherche. Il faut avoir des systèmes de rétroaction parce que si votre programme il est monopolisé par un groupe de citoyens qui veulent en profiter pour véhiculer une information, eh bien, ils pourraient tout à fait introduire des biais dans la donnée ou une surreprésentation d'un type de données. Et donc là, ça ne remplirait pas sa fonction. Donc là, c'est tout l'intérêt en fait de vraiment travailler sur l'intégration des données, la vérification des données. Mais en tout cas, ce que ça a comme vertu principale, c'est que ça replace en fait qu'est-ce que c'est que la démarche scientifique auprès du citoyen. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, dans tous les débats que l'on entend autour des fake news, c'est beaucoup ça aussi. C'est de, et même au-delà des fake news, dans la situation du coronavirus actuel, on voit qu'il y a beaucoup de discrédit qui est jeté sur les scientifiques parce que, notamment, ils ne sont pas d'accord sur un certain nombre de points. Or, dans la démarche scientifique, le désaccord, c'est justement le moteur de la recherche. C'est parce qu'on n'est pas d'accord qu'on va se poser des questions, qu'on va confronter des idées, qu'on va mettre en place des expériences pour infirmer ou confirmer ces hypothèses et qu'on va donc faire avancer la connaissance. Et donc, inculquer une culture scientifique dans la société me semble primordial, notamment vis-à-vis des enjeux environnementaux majeurs auxquels nous allons devoir faire face. Et les sciences participatives y contribuent.
À ce qu'il paraît, ça se mange, les insectes.
Ah oui, alors les insectes, ça se mange. Ça paraît comme quelque chose de nouveau. En fait, ça n'a rien de nouveau. Hein. Il y a des ethnologues qui se sont intéressés à cette question-là depuis longtemps. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on cite souvent l'Asie comme si tous les gens en Asie mangeaient couramment au petit déjeuner des insectes. Des fois, c'est très localisé hein, dans certaines populations, certaines régions. Néanmoins, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent à travers le monde, qui l'a toujours été. On trouve des traces de l'entomophagie, donc la consommation d'insectes déjà autant des Égyptiens et même avant autant des hommes préhistoriques. On voit ça sur des peintures rupestres ou des illustrations égyptiennes notamment. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement présent à l'heure où l'on parle à travers le monde. Maintenant, en Europe, bien évidemment, c'est quelque chose d'émergent. Il y a beaucoup de la barrière culturelle et psychologique qu'il va falloir lever. Moi, j'en mange, pas tous les jours non plus, hein, mais c'est une ligne de thématique que l'on développe également à l'IRBI, hein, qui est comment aider justement toute cette filière industrielle qui se structure à travers le monde, grâce à des données expérimentales, et puis essayer que cette nouvelle solution qui a plein de vertus, hein, notamment en termes d'empreinte écologique, que ces nouvelles solutions, eh bien, on ne refasse pas les erreurs du passé avec toutes les problématiques d'élevage intensif, de surdose d'antibiotiques dans tous les sens, etc. C'est quelque chose à laquelle on croit effectivement à l'IRBI. On essaie de mettre à profit nos connaissances sur la biologie de l'insecte pour cette filière qui émerge. On travaille justement en fait sur l'implantation d'un certain nombre d'industries en région centre. On travaille avec d'autres industries à l'échelle nationale et internationale également. Mais l'idée, c'est effectivement d'aider à l'installation sur le territoire de ces industries qui seraient donc au plus près également d'un centre d'expertise en entomologie qui est l'IRBI. Alors aujourd'hui, il y a deux courants hein, un petit peu. Il y a la voie un peu récréative, rigolote pour l'apéro avec des insectes séchés, aromatisés, qui ont plus le goût de ce qu'on met dedans que des insectes mêmes. Et puis, il y a une filière qui est vraiment une filière alimentaire. Et là, ce qui se dessine, c'est plutôt effectivement des produits type farine qui permettent d'avoir les bénéfices en fait nutritionnels de l'insecte, notamment d'être très riche en vitamines et en protéines, et de dépasser la problématique de l'appréhension de devoir manger un insecte. Et l'avantage de ces farines, c'est qu'elles peuvent être introduites dans des recettes de base que tout un chacun pourrait mettre en pratique. Après, il y a d'autres marchés, hein. Il y a le marché du sport et également avec des barres protéinées, des choses comme ça. Et puis, un marché plus de la gastronomie, mais qui sont, en tout cas pour la gastronomie, pour l'instant, assez anecdotiques. Des farines animales pour notamment l'aquaculture et les élevages de volailles. C'est uniquement sur ces aspects-là que la législation autorise la commercialisation des insectes, avec aussi la question de lever tous les doutes possibles qu'il pourrait y avoir. Les gens restent très marqués, hein, par les épisodes de la vache folle avec les farines animales. Donc, les insectes sont des animaux. Donc, il y a nécessité de s'affranchir de toutes ces questions sanitaires. Mais effectivement, c'est là le plus gros marché aujourd'hui qui est envisagé. À votre insu, vous en mangez déjà beaucoup. Alors, on en mange, certains colorants sont issus des insectes. Il a même été estimé que chacun d'entre nous consomme entre 500 grammes et 1 kilo d'insectes tous les ans à son insu. Ça peut être dans les bocaux de sauce tomate que vous achetez dans le commerce, ça peut être au hasard d'une salade que vous achetez également ou que vous ramassez dans votre jardin. Donc, et si vous mangez des figues, par exemple, eh bien, les figues n'existent que parce qu'elles sont pollinisées par des petites guêpes. Et lorsque vous mangez une figue, eh bien, vous mangez également des guêpes.
Petit secret nocturne. Un mot des espèces nocturnes ou de celles vivant dans la nuit d'un placard, d'un mur ou d'un tapis.
Alors, il y a beaucoup de questionnements aujourd'hui sur les punaises de lit, hein, qui envahissent les hôtels et certains logements et qui vont effectivement se loger dans les micro-fissures, dans les tapisseries, dans les petits recoins. Et ça fait partie avec effectivement aussi les termites, des insectes qui vont plutôt fuir la lumière. Et à l'IRBI, on a toute une ligne de thématiques sur ces nuisibles un petit peu, même si, de nouveau, hein, si on revient aux questions d'origine, les termites, avant d'être des nuisibles pour les habitations humaines, ont un rôle majeur dans les écosystèmes, notamment dans la dégradation du bois. Donc aujourd'hui, les termites, on essaye de comprendre leur origine, on essaye des différentes espèces via leurs introductions, on essaye également de trouver des moyens de détection précoce de ces insectes qui se développe dans nos charpentes ou dans nos poutres qui sont nombreuses en région Centre-Val de Loire, et de développer justement des moyens de détection et de lutte précoce de ces insectes nuisibles. Alors, vous avez de nombreux papillons, hein, qui vont être uniquement nocturnes, et on a à l'IRBI différentes recherches qui s'intéressent notamment à ces questions et qui vont utiliser au cours de leur vie une communication qui va être plutôt basée sur la communication chimique. C'est pour ça que les papillons de nuit ont souvent en fait des antennes complètement exubérantes avec comme des plumeaux un petit peu qui vont leur permettre d'optimiser la captation des odeurs. Et on s'intéresse aujourd'hui justement à ces questions de comment ces insectes arrivent à percevoir des odeurs dans des quantités minimes, à des kilomètres possibles. Donc, quels sont les mécanismes chimiques et physiques qui opèrent. Donc, ça fait partie des questionnements que l'on se pose. Bah, disons qu'on passe tellement d'heures à travailler avec ces petites bêtes et à les observer, y compris le week-end, les jours fériés, parfois le soir très tard. Donc, je ne dirais pas qu'il y a un lien émotionnel qui se lie avec elles, mais il y a effectivement il y a quelque chose qui se crée. Et puis, il y a des modèles qui sont des modèles historiques du laboratoire qui ont fait la renommée du laboratoire et qui se perpétuent. Donc, ça devient des espèces vraiment, vraiment emblématiques. Et puis, il y a tout un tas d'espèces qui viennent au hasard des différents projets, des différents questionnements. Et donc, c'est une ouverture aussi vers la diversité du vivant qui est fabuleuse. Et lorsqu'on a la chance d'effectivement de faire des missions de terrain, la biodiversité prend tout son sens, puisque en forêt amazonienne, par exemple, en quelques heures, vous voyez des centaines d'espèces d'insectes différents, toutes les plus extravagantes les unes des autres, la plupart n'ayant jamais été décrites. Et donc, ça attire effectivement une certaine fascination pour le vivant et de manière générale, et pour les insectes en particulier. Toutes les zones tropicales sont absolument fabuleuses par leur diversité absolument extraordinaire. J'ai eu la chance d'aller en forêt amazonienne, je le mentionnais à l'instant, et ça reste quelque chose d'extrêmement frappant pour quelqu'un comme moi qui fait surtout des études de laboratoire, d'être partie prenante d'une mission comme ça grâce à des collègues de l'IRBI. C'est quelque chose de fascinant, et on prend vraiment conscience de la diversité qui existe à la surface de notre planète et de la nécessité de la préserver.
David Giron, directeur de l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, IRBI, directeur de recherche CNRS.
J'espère que ça a pu susciter votre curiosité. Malheureusement, actuellement, on n'est pas trop en mesure de pouvoir présenter plus nos travaux. On espère que ça reviendra très prochainement. En 2021, nous fêtons les 60 ans de l'IRBI. Donc, à cette occasion, on espère pouvoir mener un certain nombre d'actions pour mieux faire connaître nos travaux aussi sur des formes sérieuse et un petit peu moins sérieuse. On explore aussi des voies artistiques, notamment grâce à la présence d'une artiste en résidence, Alexia Defluff, qui est donc avec nous pendant un an. Et donc, on espère au printemps pouvoir proposer au sein du Bois de Gramont différentes activités à la fois scientifiques et ludiques et artistiques. Et donc, on espère vous trouver nombreux à cette occasion. Il y a une gazette mensuelle qui sort, tout droit issue de l'esprit débordant de notre artiste et des étudiants qui ont choisi donc de suivre des ateliers artistiques. Et donc, c'est drôle, plein d'anecdotes, et ça ouvre un nouveau regard sur le monde des insectes.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu à flanc de culture.
Le Dahu vous emmène sur les traces de l'Apis mellifera, l'abeille ouvrière qui produit le miel. Suivons Laurent Guibert, apiculteur, amateur, membre du syndicat Les Amis des Abeilles. Il dit pratiquer une apiculture poétique.
Message 1. Vendredi 24 juin, 9h48.
Oui, monsieur Guibert, bonsoir. Écoutez, je vous ai laissé un message hier. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par un essaim d'abeilles. Si vous ne répondez pas dans la journée, moi je fais appel à quelqu'un d'autre. Ne me dites pas que vous n'avez pas le numéro de téléphone, car il s'affiche sur votre téléphone. Je vous dis à bientôt. Bonne journée. Au revoir.
Tu vois, ça, je trouve que c'est des aberrations des gens. Tu vois, tu es à leur disposition, quoi, tu vois. Et je trouve ça dingue. Parce que, en fait, aller chercher un essaim, déjà, c'est pas forcément chose aisée, parce que tu sais jamais comment ça va réagir. Sachant qu'aujourd'hui, maintenant, par exemple, les services des pompiers, ils ne le font plus, ou alors ils le font facturer 150 euros, quoi. Et il y a des apiculteurs qui viennent régulièrement chercher des essaims, ce qui est normal. L'idée, c'est quand même de sauver les abeilles. Mais par contre, moi, je demande jamais rien. Par exemple, moi, je connais des copains ou des gens aux Amis des Abeilles, qui est le syndicat apicole dont je fais partie, ils demandent régulièrement l'argent pour l'essence, pour le service, que c'est comme un service rendu, tu vois. Moi, des fois, je fais 70 km, t'arrives. Le mec qui t'appelle, tu dis, bah écoutez, je sors du boulot, je repars à un autre boulot, je viens demain matin à 9h, donc t'as quasiment pas dormi la nuit, tu fais 35 km, t'arrives, Ah bah non, il y a quelqu'un qui est venu hier, ce qui fait que les gars, ils en appellent plusieurs. Par exemple, je te cite un autre exemple, un monsieur qui habite à la sortie de Tours, tu te fais mordre par le chien, bon, ça, à la limite, c'est pas de sa faute. Partant, il te dit, bah monsieur, vous me donnerez 2 kilos de miel, quoi, tu vois. En gros, tu viens chercher un essaim, donc faut que tu me donnes quelque chose. Alors c'est quand même toi, au départ, qui lui rends service. Que des gens réclament du miel, alors que quand tu récupères un essaim, tu sais jamais si la reine sera là, à moins de la voir ou de la chercher. Par exemple, le monsieur qui m'a demandé 2 kilos de miel, son essaim, il n'y avait pas la reine. Du coup, l'essaim est périclité. Mais je trouve que c'est assez symptomatique, tu vois, de notre société. C'est-à-dire que on t'appelle, faut que tu te déplaces, quel que soit ce que tu fais à côté. Et en plus, c'est un service que tu rends, mais c'est presque comme s'il fallait que tu donnes de l'argent maintenant. Je trouve ça dingue, quoi. Enfin, bon. On va s'habiller.
Allez.
Ouais, alors attends, moi je vais mettre comme ça. Je t'avoue. Et toi, je vais te donner celle-là, celle qui est intégrale. En fait, une intégrale, c'est la tienne. Donc, c'est la tête, c'est les pieds, c'est les mains.
Là, c'est le cosmonaute.
Voilà.
Oh, bah oui, radio partout.
Alors bah, ça s'enfile comme une blouse. Hein. Par contre, enlève peut-être tes chaussures, tu les remettras.
Ah, bah oui, c'est en toute logique. Hop. Zip.
Ouais, par contre, c'est peut-être un peu grand, mais c'est pas grave.
Oh, bah c'est pas grave, je ferai un nouveau.
Donc, moi, je vais mettre ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'il y a une faille, elle pique. Mais tu sais, c'est naturellement, elle protège, en fait. Hein. Ouais. C'est pas... Donc, elle meurt, parce que la chair humaine est tellement dure que une fois qu'elles ont l'aiguillon planté, quand elles le retirent, ça le déchique l'abdomen. Donc, c'est la mort assurée, contrairement aux guêpes, qui peuvent te piquer plusieurs fois. Et surtout, c'est qu'elle va dégager un phéronome qui va appeler toutes les autres autour. Ce qui fait que là, tu peux avoir, moi, plusieurs fois, je me suis fait piquer. Une fois, je me suis fait piquer au visage. Alors, là, putain, la tête que j'avais, c'est impressionnant. C'est ça pour l'apiculture. Sans enfumoir, tu peux rien faire.
Un enfumoir.
Ouais, en fait, c'est un appareil qui crée de la fumée. Quand tu ouvres une ruche, évidemment, c'est comme si toi, on rentrait dans ton frigidaire, on piquait toute la bouffe, tu vois. Donc, il va y avoir des réactions violentes. Et il y a des périodes où les abeilles peuvent être un peu plus agressives que l'autre. Il faut savoir qu'une abeille, c'est absolument pas agressif, sauf à la ruche. Quand tu manges dehors, jamais une abeille va venir te tourner autour. Les abeilles en plus ont de la mémoire, donc elles savent qui tu es. Donc elles vont vite te repérer et elles vont vite comprendre ce que tu vas faire. L'enfumoir, ça va être un leurre en fait. C'est-à-dire que tu vas enfumer le bas de la ruche et le haut de la ruche et les abeilles vont croire qu'il y a le feu. La première chose qu'elles vont faire, c'est se gorger de miel. Du style, il y a un danger, on prend à manger avant de réagir. Du coup, comme elles vont te gorger de miel, elles vont être un peu. C'est comme si toi, par exemple, tu t'enquillais une bouteille de rhum avant d'aller bosser, donc tu risques d'être un peu étourdi. Donc elles vont être étourdies. Et pendant cela, tu pourras travailler. Le seul souci, c'est que cet état, l'étourdissement, c'est un mot qui est faible, hein, c'est presque comme si elles se droguaient, hein, ça ne va pas durer longtemps. C'est-à-dire qu'à un moment, elles vont vite comprendre ce qui va se passer. Et donc là, elles vont communiquer entre elles, parce qu'il faut savoir que dans une ruche, tout est noir. Hein, c'est-à-dire que elles ne voient rien, les abeilles. Tout ne fonctionne que par contact antenne ou par phéronome. Le fameux langage aussi des abeilles, tu sais, découvert par ce monsieur Max von Frisch. Et donc, elles vont vite communiquer qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus et qui est en train de voler le miel. Donc là, on est dans une phase aussi où il y a une belle période ensoleillée, parce que il y a des périodes où, par exemple, quand on a eu un printemps pourri, les abeilles peuvent vite mal réagir, dans le sens où le peu qu'elles ont réussi à engranger dans la ruche, il y a quelqu'un qui vient les voler. Il y a des périodes, effectivement, aussi, où il y a de la disette, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à manger à l'extérieur. Toi, tu viens leur piquer leur truc. D'ailleurs, souvent, quand tu ouvres la ruche, moi, j'ai l'impression, des fois, d'entendre un cri, tu vois. C'est comme si tu avais une personnification de l'animal, quoi. Une abeille va te piquer, donc elle va mourir. Mais instinctivement, tous les autres vont venir là où tu as été piqué. Donc la solution, c'est soit effectivement de réagir assez rapidement en mettant un peu de fumée pour faire disparaître ce phéronome, ou soit des fois de refermer. Quand les abeilles sont en colère et que tu sens que ça se passe mal, des fois, il vaut mieux refermer, les laisser tranquilles. Alors, pour l'enfumoir, il y a différentes techniques. Moi, j'utilise une boîte à œufs non colorée, parce qu'il y a quand même des produits chimiques, et des grains de lavande.
Des grains de lavande?
Ouais, c'est des grains de lavande. C'est-à-dire que c'est pour maintenir une espèce de... Une fumée qui ne doit pas être trop chaude, une fumée qui soit assez constante, qui dure un petit peu quand même. Hein. L'idée, c'est d'ouvrir la ruche, mais de pas s'attarder non plus, quoi. C'est-à-dire que même quand tu enlèves une hausse, donc la hausse, c'est la partie que récupère l'apiculteur de miel. Ça prend un petit peu de temps, quand même. Voilà, hop, donc t'allumes.
Donc c'est quoi? C'est une boîte de conserve qui est reliée à un soufflet?
Ouais, c'est ça. Donc t'as un soufflet qui va projeter de l'air. Donc là, je mets les grains de lavande par-dessus. Ça, c'est juste pour entamer. Et surtout, tu mets de l'herbe par-dessus pour que la fumée soit pas trop chaude.
De l'herbe?
Ouais. Donc moi, je mets de l'herbe par-dessus pour que la fumée soit pas trop chaude. Aussi, si la fumée est extrêmement chaude, ça va les rendre extrêmement agressives.
Et ça, c'est quoi, cette raclette, là?
Alors ça, on appelle ça un lève-cadre. Un lève-cadre américain, parce qu'il est rouge. Ouais.
Bon, ça, ça permet de déplacer les cadres.
Mais ça, c'est une abeille, c'est l'Apis mellifera.
Alors ça, c'est quoi? C'est pas de la fausse carotte, ça.
Non, alors, tu vois, alors ça, c'est un cétoine doré. C'est-à-dire que ça, c'est une plante qui est hyper importante parce que c'est extrêmement mellifère. Et c'est qu'ils appellent ça l'autoroute des insectes, parce qu'il y a énormément d'insectes qui viennent butiner. Et le problème, c'est qu'à la campagne, bah, souvent, pour que ce soit propre, eh ben, on tombe tout ce qu'on appelle les dépendances vertes. Alors, c'est super important, les dépendances vertes. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que maintenant, en ville, ils les laissent et à la campagne, ils les tondent. Eh bien oui, parce qu'il faut que la campagne, il faut que ce soit propre, il ne faut pas qu'il y ait d'herbes qui dépassent. Alors tu vois, ici, il y a des orties. Enfin, c'est...
Et ça, c'est quoi, la violet?
Ah, ça, c'est du buddleia, ça. C'est de l'herbe à papillons. Extrêmement important aussi. Hein. Alors, le problème aussi des ruches, si tu veux, c'est qu'elles sont derrière, là. Le souci, c'est qu'il ne faut pas être sur leur route, dans le sens où elles ne viendront pas te piquer, bien évidemment, mais par contre, c'est les chevaux. Ah. Dans le sens, c'est sur leur route pour rentrer à la ruche. Donc, ce qui est super ici, tu vois, c'est ça, c'est qu'il y a une haie, bon, qui a grandi démesurément grâce aux abeilles, bien évidemment. Et donc, très vite, elle monte très haut. Parce que s'il n'y avait pas ça, bon, elle serait à notre niveau. Puis alors là, moi, plusieurs fois, je les ai eu dans les cheveux, puis une abeille dans les cheveux. Le problème, c'est qu'elle va s'énerver, et puis elle va finir par te mordre.
Est-ce que tu peux préciser? Parce que du coup, tu dis que là, cette haie, c'est grâce aux abeilles. Pourquoi?
Tu vois bien, par exemple, il y a des pays où en Chine, ils pollinisent à la main. Tu imagines le boulot? Là, la haie, elle a pris plusieurs centimètres, enfin même plusieurs mètres en peu de temps, hein. Le rôle des abeilles, c'est effectivement de polliniser et de participer à l'évolution de la plante. Mais il n'y a pas que l'abeille qui pollinise, hein, justement. Je parle des abeilles solitaires qui sont en train de disparaître. Et une des raisons pour lesquelles elles disparaissent, c'est qu'elles subissent la concurrence des abeilles mellifères. C'est ce qui est paradoxal, tu vois. Et comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir une ruche, c'est une des conséquences, c'est un des dégâts collatéraux, tu vois. Dans le sens où les abeilles solitaires, qui sont extrêmement importantes, notamment pour les légumineux, notamment pour les tomates... elles subissent la concurrence. Bon, il n'y a pas que ça, hein, évidemment. Il y a pesticides, tous les produits... D'ailleurs, j'aime bien ce terme maintenant, on dit phytosanitaire, tu vois. On dit plus produits chimiques, ça, c'est pas un hasard. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de médicaments de la plante. T'as entendu parler de cette histoire, non?
Non, pas encore.
Par exemple, les OGM ou les produits dits phytosanitaires, c'est-à-dire que ceux qu'on appelait autrefois sous le nom d'herbicides, insecticides, fongicides, on dit que c'est des médicaments de la plante. Les agences de com, elles passent par là, quoi. Donc nous, on a fait une espèce d'espace naturel, là, tu vois, où moi, je tonds très peu, ou quasiment pas, où là, t'as plein de plantes mellifères, je vais t'en faire voir une. Là, par exemple, ça, c'est de la knouti, tu vois. Ça, c'est de la knouti, c'est extrêmement mellifère.
C'est une petite fleur
violette, ouais. Et ça disparaît parce que, effectivement, les prairies, il y en a de moins en moins. Et bah, les monocultures font que bah, les fleurs sauvages, s'il n'y a pas d'espace pour les fleurs sauvages, alors là, la crépi des champs, c'est hyper mellifère aussi. Tu vois, les ombellifères qu'on voit derrière, par exemple, là-bas. Alors, c'est, en plus, ça monte jusqu'à 2 mètres.
Alors là, t'as le riquet. T'as une exposition qui est sud-sud-est, hein, comme ça, ouais. Elles ont très tôt le soleil le matin, ce qui permet de, entre guillemets, les faire travailler, mais le but, c'est pas non plus les exploiter. Il y a un coin un peu ombragé, ils ont un peu le soleil, bon, il y a des points d'eau pas trop loin, donc c'est le bonheur, là.
Il y en a combien, des ruches?
Là, alors, j'en ai deux qui sont en train de péricliter, parce que moi, je fais pas d'eugénisme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'apiculteurs qui font de l'eugénisme, tu sais, genre une abeille, enfin... Une reine qui pond pas, qui commence à être trop âgée, on la zigouille pour réintroduire une nouvelle reine. Moi, je fais pas ça. Les reines, jadis, vivaient 4-5 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt 2 ans. Là, t'as le corps de ruche, ici, et là, t'as la housse. C'est-à-dire que à un moment, dans le corps de ruche, tu vas avoir trop d'abeilles. En dessous, ici, c'est des ruches qu'on appelle des ruches d'Adam. Et la ruche d'Adam, c'est dedans, il y a 10 cadres. Et au-dessus, on met une housse pour récolter le miel. Donc, il y a un moment où, effectivement... tu vas t'apercevoir que les abeilles commencent à manquer de place, que la colonie s'est bien développée, donc tu vas rajouter la hausse. Et le travail de l'apiculteur, c'est un travail de voleur, en fait. C'est-à-dire qu'il va voler le miel. Alors, moi, j'appelle ça l'apiculture poétique parce que je ne mets pas de grille à reine. Entre la ruche, ici, et la hausse, tu vas mettre une grille. Et comme la reine a un abdomen beaucoup plus long, on ne pourra pas passer. Seulement, les abeilles vont passer et vont stocker du miel. Et moi, je ne mets pas de grille... à Rennes, parce que je trouve ça abominable, j'ai l'impression que c'est un outil de torture, enfin ça c'est mes personnels, donc ça empêche la reine de monter, parce que le souci quand la reine monte dans la hausse, c'est qu'elle pond dans la hausse. Donc moi j'ai de la perte, dans le sens où je vais pas récolter le cadre où il y a de la ponte pour le laisser. Et ça, un apiculteur professionnel fera pas ça, parce que l'idée c'est effectivement que produire du miel et d'avoir un maximum de miel. Donc là je vais te l'ouvrir. Donc là t'as l'espace d'envol, alors tu peux venir, ça sert à rien. Par contre, ce qu'il faut pas faire, c'est se mettre devant.
Donc, tu vois, tu as les abeilles qui rentrent, qui sortent. Donc tu as des sentinelles hein, qui vont sortir, parce que là, tu vois, il y a une anomalie. Donc nous, on va enfumer devant. Comme ça. Alors là, ça va sortir un peu. Ça va se dire qu'est-ce qui se passe. On va attendre un tout petit peu. Donc on enfume bien. L'idée, effectivement, c'est pas non plus les asphyxier, hein, parce que si les asphyxie, ça va mal se passer. Donc là, il y en a qui arrivent. C'est... pour voir ce qui se passe. Et après, on ouvre dessus. Alors, au-dessus, donc, t'as le toit, normal. Ensuite, ce qui est important pour moi, c'est pas forcément d'avoir une récolte de miel. C'est pas le... L'important, c'est le bien-être des abeilles, quoi. Donc ça, c'est... ça maintient une température supplémentaire. Donc le couvre-cadre, qui est très important. Donc on l'enlève. Alors des fois, il est propolisé. Propolisé, c'est-à-dire que les abeilles, elles vont utiliser la propolis, c'est qu'on trouve sur certains arbres, comme du chêne, pour combler tous les trous. Voilà, donc là, on est dans la hausse, c'est là où elles stockent le miel. Alors ça, tu vois, c'est elles-mêmes qu'on construit, c'est de la cire, et ça veut dire qu'elles commencent à manquer de place. C'est-à-dire que naturellement, elles ont des glandes cirières qu'il faut qu'elles utilisent. C'est pour ça que l'apiculteur, ce qu'on appelle la visite de printemps, c'est-à-dire quand il rouvre ses ruches après l'hiver, en espérant qu'elles ont passé l'hiver, il va mettre deux cadres de cire neufs qu'elles vont propoliser. Alors là, je sors. Bah, tu vois, il n'y a rien. Super, je suis content. Là, tu vois, ça c'est le cadre pour récolter le miel, sauf que là, il n'y a rien. Mauvaise surprise. Donc je vais me mettre là, si tu en trouves un autre. Je suis assez étonné. Donc là, en dessous, tu vois, tu as la ruche originelle, si tu te penches. Tu vois. Donc, avec le lève-cadre, tu les déplaces. Donc tu vois, ce qu'elles font, c'est qu'elles se mettent tous en train de manger du miel. Parce qu'elles savent que... Il y a un problème. Des fois, c'est un peu dur. Hein. Parce que.
Alors là. T'as plusieurs couches de cadre en fait.
Voilà. Alors, ça, tu vois, regarde, ça, c'est un cadre où il y a du miel. Ouais. Et comme le miel a été déshumidifié parce qu'il est plein d'eau, donc là, il a été récolté. Donc là, c'est un miel qui ne coule pas. Mais une fois qu'il est complètement déshumidifié, elles mettent cette fine pellicule de cire pour le conserver. Donc souvent, elles commencent par les cadres de milieu, c'est normal, et elles finissent par les cadres de côté. Et tu vois, ça commence un peu à s'énerver. Voilà. Alors, surtout, il faut essayer de leur mettre dans l'ordre. Hein. Des fois, ça peut être très lourd, hein, parce qu'une hausse pleine, ça peut peser entre 30 et 50 kilos. Hein. Tu vois. Donc là, elles ont récolté le miel. Par contre, celui-là, il n'est pas operculé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis encore la cire. Mais comme il ne coule pas, il est déshumidifié. Parce qu'en fait, quand elles récoltent le miel, il est plein d'eau. Donc ce qu'elles font, elles les déshumidifient avec leurs ailes. Alors, moi, je ne peux trop les embêter. Hop, on se referme ça. On va refermer là. Donc ça, par contre, c'est une larve de fausteigne. Ça, c'est pénible.
C'est quoi, une larve de fausteigne?
Alors, la fausteigne, c'est un papillon nocturne. Qui vient se nourrir de la cire d'abeille. Alors des fois, quand t'as la colonie qui est trop faible pour se défendre, la fausteigne pond, les larves vont se nourrir de la cire, du miel qui reste, et après, ça te bouffe tous tes cadres. Alors tu vois, t'as le reste du rucher, là. Donc tu vois, t'as des ruches où il y a deux hausses, ça veut dire que c'est des ruches très, très, très fortes. Et là, celle-là, elle n'a pas de hausse. Alors pourquoi elle n'a pas de hausse? Parce que ça a été c'était un essaim que j'étais récupéré, on met d'abord en ruchette. Je vais devoir avoir une ruchette. Alors la ruchette, elle est là-bas. C'est une mini-ruche. Quand tu récupères un essaim, bon, souvent, l'essaim, donc, c'est une opération naturelle. Tu sais, t'as la moitié de la ruche qui s'en va. Sachant que dans une ruche, ça va en moyenne de 40 000 à 80 000 habitants. Donc un essaim, c'est impressionnant. T'as, d'un seul coup, t'as 15-20 000 abeilles qui arrivent. Donc tu récupères l'essaim, donc ça se passe plus ou moins bien en fonction de la température, du lieu où elles se posent, hein, parce qu'elles peuvent se poser un peu n'importe où. Des fois, tu vois des essaims sur des parcs-mètres ou sur des vélos ou sur des voitures. Et après, tu le mets ce qu'on s'appelle une ruchette. Sauf que cette ruchette-là, elle n'est pas terrible parce que la ponte se fait mal. C'est-à-dire que soit la reine n'est pas dans l'essaim, et ce qui fait qu'il n'y a pas renouvellement de population, soit la reine est un peu trop vieille, parce que naturellement, la reine quitte la ruche, avec la moitié de la population, donc c'est souvent une vieille reine, et donc dans la ruche qui a été quittée, va y avoir différentes pontes, différentes cellules royales, et va naître une nouvelle reine. Et des fois, cette vieille reine là, qui a été récupérée, soit tu la récupères pas, ou soit des fois elle est trop vieille pour pondre, ou soit des fois, malheureusement, dans le transport, il suffit d'une mauvaise manip, et puis tu l'écrases, et donc là, la ruche devient bourdonneuse, c'est-à-dire que les abeilles n'auront pas été fertilisées, et du coup, ne vont naître que ce qu'on appelle des mâles, des faux bourdons. Quoi. Et donc la ruche va péricliter. Je vais te la faire voir.
Alors, donc, c'est-à-dire que la petite ruche, là, tu la poses à côté de l'essaim ?
Des fois, ça se passe tout simplement. Hein. Souvent, tu prends une ruchette avec des vieux cadres. Mmh. Il y a une population d'abeilles qui a vécu dedans. Donc, ça sent la cire. Des fois, l'idéal, c'est d'avoir une ruchette avec encore un peu de miel. Donc, en fonction d'où se posait l'essaim, tu les fais tomber dedans ou tu les mets dedans. Mmh. Et après, bon, tu fermes et tu emmènes.
D'accord.
Bah, ça peut paraître simple comme ça, mais des fois, c'est beaucoup plus compliqué. Pareil, même technique, hein. un peu de fumée devant. Voilà, alors tu vois ce qui est étrange, donc là t'as la ruche, donc, pareil, même technique, t'as fumé, tu vois, elle est en train complètement de péricliter celle-là. Est-ce que tu vois, ça, c'est un faux bourdon, c'est un mâle. Ne naissent que des faux bourdons parce que la reine est partie ou est morte ou est trop vieille. Encore quelques abeilles, je te sors un cadre. Là, tu vois, donc au départ, le cadre est de ce qu'on appelle le cidre frais, c'est-à-dire de la cidre pure, et ensuite elles vont créer ça, naturellement. Un hexagone parfait, ouais. Ouais, dans lequel elles vont pondre, dans lequel elles vont stocker du miel, elles vont stocker du pollen. Là, regarde, tu vois, j'en mets un petit peu de fumée. Je vais te faire avoir un vieux cadre.
Comment tu les reconnais, les mâles ?
Ils sont plus gros, regarde, c'est des gros pépères. En plus, ils font rien, c'est feignant. Tu vois, ils sont plus longs.
Ah oui.
Ils sont plus longs. Et alors, le mâle, le problème, c'est... Enfin, c'est pas un problème, c'est que là, au mois d'août, il va être éjecté des ruches. Parce que la seule utilité, entre guillemets, le rôle du mâle, c'est de féconder la reine. Et une fois qu'il a fécondé la reine, donc il reste dans la ruche, enfin, ceux qui ont réussi à féconder la reine, il y a un cri de la reine, elle va sortir, et tous les mâles aux alentours vont essayer de... vont lui courir après, hein. Et les plus costauds vont réussir à la fertiliser. Donc elle retourne ensuite, dans la ruche où elle va pondre. Bon, alors il faut qu'il y ait des conditions, il faut qu'il y ait une certaine température, il faut qu'il fasse plus de 20-25. Il faut effectivement qu'il y ait suffisamment de mâles. Et ensuite, bon, les mâles qui vont naître dans la ruche vont être nourris par les abeilles. Et leur seul rôle, c'est de fertiliser la reine. Et donc au mois d'août, comme effectivement les jours vont rallonger, il va y avoir moins de nourriture, ils vont préparer l'hiver. Donc les abeilles vont foutre les mâles dehors et vont mourir. Parce que le mâle ne se nourrit pas tout seul. Dès que les abeilles sentent que la réserve de nourriture va être moins importante, qu'il va falloir préparer l'hiver, donc des fois tu les vois, elles se mettent à 5 ou 6, elles le tirent par les pattes, elles l'éjectent carrément. Et le mâle, comme c'est un gros balourd, il va pas réussir à rentrer dans la ruche, il va mourir de faim au pied de la ruche. Tout ça pour préparer l'hiver, pour essayer qu'il y ait assez de nourriture pour que la colonie puisse passer l'hiver. Et après, quand la reine va se remettre à pondre, il va y avoir une pondaison de mâles. Tiens, ça, c'est un mâle, ça. Les hausses, tu peux en mettre jusqu'à 3 ou 4. Hein. Il y a des fois, tu as des ruches qui sont tellement populeuses. C'est-à-dire que tu as une reine qui est tellement fertile qu'une reine peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour en pleine période. En pleine période, c'est juin. Hein. Il n'est pas rare de voir des ruchers où tu as une ruche avec 3 hausses, voire 4 hausses. Moi, j'ai pas non plus un stock de hausses très importante, mais les colonies les plus fortes, tu vois, il y a 2 hausses. Alors, ce qui est bien, c'est que tu vois là, c'est qu'il y a le soleil tôt le matin, mais il y a aussi l'ombre pour la chaleur. Parce que des fois, tu vois les abeilles sortir de la ruche tellement il fait chaud à l'intérieur et elles ventilent. C'est-à-dire qu'avec leurs ailes, elles vont produire un espèce de vent pour rafraîchir la ruche. Par contre, j'ai jamais vu de vol nuptial, mais il paraît que c'est impressionnant. C'est-à-dire que tu sais, c'est là où la reine va être fécondée donc par les faux bourdons. Il paraît que c'est un spectacle incroyable. Ça se passe à plusieurs mètres de hauteur, centaines, dizaines de mètres de hauteur, mais apparemment tu peux le voir. Voilà. Bon.
Ta-la, la, 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 la. Mourir pour hésiter. D'accord, mais de mort lente. D'accord, mais de mort lente. Attention.
Quand on le permet, bien évidemment, il faut qu'il fasse plus de 15 degrés, tu vas ouvrir ta ruche. Mmh. Elles ont passé 6 mois d'hiver, tu sais pas dans quel état tu vas retrouver ta ruche. Alors des fois, tu ouvres, toutes tes abeilles sont mortes, toutes tes abeilles sont parties. Donc le travail de l'apiculteur aussi, c'est celui-là au printemps, c'est veiller à l'état sanitaire de la ruche et puis introduire entre 2 et 3 cadres. Alors il y en a qui le font pas, quoi. 2 et 3 cadres dans ta ruche pour que les abeilles utilisent leur grande cirière et que ta cire se développe naturellement. Donc là, tu vois, c'était ça. Et là, ils ont commencé à construire. C'est parfait. Et le problème, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, bah, tes câbles, ils sont trop vieux. Donc, alors là, il s'est passé deux choses.
Là, c'est tout noir.
Voilà, c'est tout noir à cause de... Alors ça, c'est ça la fausse teigne. Tu vois, ça se met là-dedans et ça bouffe les reliquats de miel et de cire. Et ça, c'est catastrophique. Et après, ça pond dedans. Tu vois, ça fait ça et ça fait ça après. Donc là, les cadres, la cire est trop vieille parce que c'est noir, parce que la cire est vieille et surtout, c'est la pollution qui s'accumule. Donc là, là-dedans, tu as des résidus de pollution qui peuvent être extrêmement dangereux pour les abeilles. C'est pour ça l'idée de mettre de la cire neuve pour repartir sur des bases saines.
C'est quoi le gros cylindre là ?
Et bien ça, c'est l'extracteur. En fait, tu sais, tu... Donc tu extrais tes cadres de housse. Tu sais, quand je t'ai fait voir tout à l'heure, qui étaient pleins de miel et de cire. Donc déjà, tu désopercules, donc avec un couteau. Alors moi, je prends le couteau à pain, c'est ce que je trouve de mieux. Mais bon, après, on est tous différents. Hein. Tu enlèves la cire. Là, ça, c'est de la cire récupérée. Alors certains, avec de la cire, la revendent. Alors, pour faire les fameuses cadres de cire gaufrées, certains font des bougies. C'est un fond aussi des pains de cire. Il y a des gens, tu sais, avant, autrefois, les gens, ils mangeaient ça. Il y en a encore qui en mangent. Les gâteaux de miel, en fait, ils appellent ça. Bon, même ça se mange encore. Hein. C'est-à-dire que bon, tu manges le miel et la cire. Ah ouais. C'est bon pour les dents, c'est bon pour plein de trucs. Donc, une fois que tu as enlevé ta cire, tu mets ta cadre là-dedans. Tu vois, donc là, c'est génial parce que tu as trois en un. Donc, tu as l'extracteur. Tu mets tes cadres là, tu vois, tu les positionnes. Ensuite, par la force centrifuge, parce que ça, c'est manuel, mais il y en a des électriques. Tu vois, tu fais tourner, hop, et par la vitesse, le miel va être projeté sur les parois, donc ça va descendre. Là, tu as un filtre, donc toutes les impuretés, alors les impuretés, ça peut être de la cire, ça peut être un peu de propolis, ça peut être aussi des pattes d'abeilles ou des fois des abeilles aussi, malheureusement, tu attrapes avec la housse. Mais c'est pour ça que moi, quand j'enlève des housses, j'essaie qu'il y ait un minimum d'abeilles qui soient tuées. Donc le miel coule, va être filtré là, et ensuite tu vas le récupérer là, ce qu'on appelle le maturateur.
D'accord.
Alors en fonction du...
Pas hein du tonneau. Enfin, du...
Voilà, ouais. Mais là c'est trois en un, parce que des fois t'as des appareils où t'as juste l'extracteur, t'as pas le filtre et t'as pas le maturateur. Voilà, c'est super là, t'as trois en un. Et après tu récupères le miel là. Et en fonction du type de miel, tu le laisses plus ou moins dans le maturateur. Parce qu'en fait toutes les impuretés vont remonter à la surface. Du coup, tu vas enlever les impuretés et tu vas récolter le miel. Alors, il y a des gens qui refiltrent le miel pour qu'il soit totalement dénué d'impuretés, mais moi, je trouve ça beau qu'il y ait un peu d'impuretés dedans. Alors, il y a des miels où tu laisses, par exemple, le miel de printemps, moi, je laisse très peu, je laisse 24 heures parce qu'il va solidifier très vite. Et par exemple, tu vois, le miel de châtaignier, là, moi, j'ai laissé quasiment presque 15 jours, quoi. Après, il ne faut pas se faire avoir non plus. Dans le sens où si tu laisses trop longtemps, s'il se solidifie à cause du sucre qui va se solidifier, c'est une opération naturelle. Hein. En Touraine, le seul miel qui reste liquide naturellement, c'est l'acacia. Si tu vois de l'acacia, enfin si tu vois un miel qui est du châtaignier qui a quelques mois et qui est encore liquide, c'est qu'il aura été manipulé. C'est-à-dire qu'on va le chauffer. Enfin, c'est de la magouille. Il y en a qui magouillent. Pourquoi, comment, j'en sais rien, parce que le miel liquide, ça se vend plus. Donc faut pas se faire avoir. Autrement, si ton miel il solidifie là-dedans, bah du coup tu enlèves tout à la main, quoi. Parce que là, t'as juste à ouvrir. Tu sais, ça fait un peu comme une cannelle de vin, en fait, quoi. Tu ouvres, t'as le miel qui sort, c'est magnifique, quoi. Alors, moi, je fais pot après pot parce que c'est un rituel, quoi. Non, mais tu sais, il y a un côté magique, puis un côté rituel, toi, c'est super beau, quoi. Tu vois, 500 grammes de miel équivaut à 8 millions de fleurs visitées. Visitées, hein, ça veut dire pas forcément butiner, c'est-à-dire que l'abeille, tu te rends compte, 8 millions de fleurs, 10 à 1000, 20 000 voyages d'abeilles, 7000 heures de travail, c'est-à-dire que du moment où elle est butinée jusqu'à un moment où elle est déshumidifiée avec de la cire, et la vie d'une abeille est limitée à 400 voyages, en moyenne. Donc pour faire 500 grammes de miel, il faudra plus d'une centaine d'abeilles. Alors tu vois, un petit pot comme ça, c'est 500 grammes, il y a tout ça là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on oublie le travail qu'il y a derrière. Je ne parle pas du travail d'apiculteur, là, je parle du travail de l'insecte, de l'abeille. Et bah, ça vaut ça, quoi. Donc après, tu as envie de respecter le produit.
Et alors, ces idées-là, elles sont défendues dans le syndicat d'apiculteurs auquel tu appartiens ? C'est une idée que vous avez en commun ou c'est ta façon de penser à toi ?
Ah bah non, mais ça, je pense que c'est tous les gens qui se disent apiculteurs, hein, qu'ils soient professionnels ou amateurs ou plus réactifs, tu vois, dont on dit que t'es plus réactif dès que t'as plus de 10 ruches. Ça va de sens, tu vois ce que je veux dire. Quand tu vois la beauté de l'animal, quand tu vois la fragilité de l'animal, quand tu vois la disparition de l'animal, parce que effectivement, ce que je te disais tout à l'heure, les abeilles qui subissent des agressions chimiques, qui subissent les introductions dues au commerce international, bien évidemment, ça c'est un non-sens, tu vois, l'industrie. Après, dans les amis des abeilles,
Il y a effectivement des professionnels, mais c'est des gens qui ont une certaine éthique, une certaine façon de voir les choses, qui effectivement, eux, vont produire du miel, mais tout en respectant l'animal, quoi. C'est-à-dire le but, c'est quand même de respecter l'animal. C'est-à-dire tu ne peux pas faire d'apiculture sans aimer l'abeille. Et je pense que tous les gens qui sont dans ce syndicat-là, ils aiment les abeilles. Après, il y a ce que je te disais, l'effet pernicieux des médias, où à un moment, il y a eu cette mode où tout le monde voulait avoir une ruche dans son jardin. L'abeille, ce n'est pas un chat, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un animal domestique, donc il y a des choses à apprendre, il y a des choses à faire attention. Puis il y a les voisins respectés, tu vois.
Merci, Laurent.
De rien.
Le Daï vous dit à bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas que la culture, c'est comme la confiture, il y en a pour tous les goûts.